السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous reprenons la lecture du livre الأدب المفرد du grand imam أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. Il est l'auteur du livre le plus authentique après le Coran, Sahih al-Bukhari. Et nous lisons, nous, dans son livre indépendant du livre Al-Adab Sahih al-Bukhari, qui se nomme Al-Adab al-Mufrad, un livre relatif au noble caractère, au bon comportement. Et nous allons passer directement au chapitre Bab ar-Rajulu Ra'in fi Ahli. L'homme est responsable au sein de sa famille. L'homme est responsable au sein de sa famille. Le responsable, Ra'i, c'est celui qui préserve la responsabilité, qui préserve et qui respecte la responsabilité qu'on lui a attribuée. Il y accorde beaucoup d'importance, beaucoup d'attention, et régulièrement, il prend des nouvelles pour voir si tout se passe bien, si tout va bien. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez-vous vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Il y a des anges rudes, durs en tant que gardiens, ne désobéissant jamais à Allah dans ce qu'il leur commande de faire, et ils font entièrement ce qu'on leur ordonne. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'enseigner à nos familles, d'éduquer nos familles et de les avertir contre tout mal. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati. Fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra' wal mas'oulu 'an ra'i wa mas'oulun 'an ra'iyyati wal rajulu ra'in 'ala ahli baytihi وهو مسؤول عن رعيته والعبد وعبد الرجل وفي طريق والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous bergers, c'est-à-dire responsables, et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et l'émir est un berger, il est responsable de son troupeau. L'homme est le berger des gens de sa maison, il est responsable de son troupeau. Le serviteur est le berger des biens de son maître, et il en est responsable. Vous êtes tous des bergers, et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Abdullah ibn Omar nous dit: j'ai entendu ces paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je pense qu'il a dit, et l'homme est responsable de l'argent de son père. Et l'homme est responsable de l'argent de son père. Ce hadith nous montre qu'il y a une grande responsabilité attribuée à l'ensemble des membres de la communauté. Mais chacun a son niveau. Mais chacun a son niveau. Et lorsqu'on nous dit « wa mas'oulun an ra'iyati » et que chacun d'entre nous sera interrogé sur sa responsabilité, on attire notre attention sur la sincérité dans cette responsabilité. On attire notre attention sur le fait d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on met en pratique ce qu'il nous a commandé. Tout comme en comprenant qu'on sera interrogé, donc ressuscité et jugé yawm al-qiyama, le jour de la résurrection, ça nous appelle à nous éloigner de ce qui amène la colère d'Allah. Ça nous amène à nous éloigner de ce qui cause la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cas où on négligerait, dans le cas où on abandonnerait cette responsabilité, ce dépôt. Ce hadith a commencé par la généralité. Vous êtes tous responsables. Et il a fini par la généralité. Vous êtes tous responsables et chacun sera interrogé sur sa responsabilité. Pourquoi ? Pour nous montrer que toutes les parties composantes de la communauté ont une responsabilité. Mais par la suite, le prophète alayhi salat wa salam a détaillé pour montrer que chacun porte à hauteur de sa à hauteur de son rang une grande responsabilité. Le gouverneur a la grande responsabilité du peuple et il sera interrogé sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'homme est responsable dans sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la femme est responsable de la maison de son époux. Donc chacun doit étudier sa responsabilité. Il doit l'assimiler, la comprendre. Il doit savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette responsabilité. Puis, il doit s'acquitter de son devoir avec un état du cœur louable et noble qui est « Je fais cela car mon Seigneur m'a ordonné cela. Je m'éloigne de ceci, car mon Seigneur m'a interdit ceci. Et lorsque je remplis cette obligation, cette responsabilité et préserve ce dépôt, mon cœur est rempli d'espoir quant au fait qu'Allah me rétribuera, me récompensera. C'est ainsi qu'on doit agir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à la douceur envers ceux qui sont sous nous, sous nos personnes. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih wa man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi. Le prophète alayhi salat wa salam invoquait Allah et disait « Oh Allah, celui qui prend une responsabilité dans les affaires de ma communauté et se montre doux envers eux, sois doux envers eux, sois doux envers lui. Et celui qui prend une responsabilité dans les affaires de ma communauté, et se montre dur, na'am, envers eux, mais sur lui, la dureté. Mais sur lui, la dureté. Donc ici, l'homme doit savoir qu'il a une grande responsabilité. Il ne doit pas penser que c'est une mince affaire que de fonder un foyer, que d'épouser une femme, que de faire des enfants, et penser que l'affaire s'arrête ici. Non. Dans ce bas monde, il a de lourdes responsabilités. Et dans l'au-delà, il a un lourd jugement sur cette responsabilité que volontairement il a prise. Lorsqu'il s'avance et qu'il se marie, il ne doit pas penser que l'affaire s'arrête ici. Naam, qu'il profite, qu'il se réjouisse. Non, l'affaire est bien plus immense que cela. Il a un lourd dépôt. Il a un lourd dépôt. Il doit préserver tout ce qu'Allah lui a ordonné. Il ne doit pas abandonner le dépôt. Il doit être motivé quant aux recommandations. Et cela passe par quoi ? La connaissance. Comment est-ce que tu peux, si toi l'homme marié, ô toi qui fonde un foyer, comment est-ce que tu peux savoir si tu t'es acquitté de ta responsabilité, de tes devoirs, si tu n'as pas appris quels étaient tes devoirs ? Il ne sait pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Comment pourrait-il par la suite dire « Moi, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Ou « Je dois m'améliorer dans tel domaine et tel autre domaine, alors qu'il est ignorant. » Non. Ça n'est pas simplement en regardant Naam, ses proches qu'on va savoir ce qu'on a à faire et ce qu'on a délaissé. Mais c'est à travers le Coran et la Sunna, c'est à travers la révélation, ce avec quoi Allah Azza wa Jal a guidé les peuples à réformer les cœurs, il faut absolument étudier les droits et les devoirs. Puis, l'homme doit faire dua pour ses proches. Il doit faire dua pour ceux qui sont sous sa responsabilité. Parce que si lui peut orienter, peut conseiller, il ne peut pas guider les cœurs. Seul Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin a la capacité de guider les cœurs. Allah nous dit à cet effet dans le Coran, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُ. Allah Azza wa Jalla, en s'adressant au messager d'Allah, certes tu ne guides pas qui tu aimes. Quand son oncle Abu Talib est décédé en dehors de l'islam, hein? Certes tu ne guides pas qui tu aimes. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Donc la guider, al-hidayah biyadillah. La guider, elle est dans la main d'Allah. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit demander à Allah Azza wa Jalla la guider pour nos proches, femmes, enfants et tous ceux qui sont sous notre responsabilité de manière plus générale. Et tu dois être déterminé dans cela, tu dois être motivé dans cela. Après les duas, tu dois faire les causes. Tu dois t'asseoir avec eux, tu dois t'enquérir dans leur état, tu dois leur transmettre la science utile et bénéfique en commençant par la croyance authentique, la purification de la croyance. Tu dois faire en sorte qu'ils rattachent leur cœur à Allah dans toute situation, dans toute configuration. Puis tu dois leur apprendre à tahara, la purification. Puis tu dois leur apprendre à salat. Puis à zakat, à siyam, et ainsi de suite, tout ce qui les concerne. Naam. Il doit, de manière générale, leur enseigner et les éduquer. Il doit suivre ses enfants. Il doit savoir lorsqu'ils sortent, où ils vont, avec qui ils vont et pourquoi ils y vont. L'enfant ne doit pas aller dans un endroit sans que ces trois questions, sans que ces trois réponses soient amenées. Où il va, avec qui il va et pourquoi il y va. Naam. Si les réponses sont positives, alors alhamdoulillah. Dans le cas contraire, on ne laisse pas l'enfant faire ce qu'il veut ou aller où il veut. Certains sont même arrivés au niveau de dire qu'on n'enseigne pas à l'enfant quand on le veut nous. Mais c'est l'enfant qui apprend ce qu'il veut presque et quand il le veut surtout. Allahu Akbar. Vous imaginez? Ils veulent que les enfants grandissent comme les enfants le veulent. Mais l'enfant, il ne sait pas où est son bien. Certains adultes ne savent pas où est leur bien. Comment est-ce que tu peux dire que l'enfant étudiera quand il le veut et ceci et cela, comme dans certaines méthodes? Non. On donne à l'enfant ce qui est bon pour lui. Lorsque l'adulte est malade et que le médicament est amer, mais qu'il en a besoin, il le prend malgré tout. L'enfant, lui, si le médicament n'est pas à son goût, il le délaissera. Est-ce qu'on laisse l'enfant dépérir, l'enfant se nuire? Non. On le pousse là où il y a son bien. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a menacé tout parent qui meurt en ayant trahi la responsabilité familiale. Le prophète, alayhi salam, le menace. Il nous dit, « Man mata » وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِ فَالْجَنَّةُ عَلِي حَرَامٌ. Écoutez la gravité de ce hadith. La gravité à laquelle s'expose celui qui entre dans ce hadith. Quiconque meurt tout en trahissant le dépôt de sa responsabilité, il meurt et il a mal orienté ses enfants. Il meurt et il a égaré sa famille, il a trahi le dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, فَالْجَنَّةُ عَلِي حَرَامٌ. Le paradis pour lui, il est interdit. Le paradis pour lui est interdit. À l'image de l'homme qui éloignait sa famille du bien. Certains ont une fille qui est pieuse, qui veut mettre le hijab. Ils leur disent non, je ne mets pas le hijab. D'autres ont un garçon, il veut aller apprendre le Coran. Non, tu ne vas pas apprendre le Coran. Reste dans ça. Et il lui montre que le plus important, par exemple, c'est le sport. Ou il y a un enfant qui veut faire salat. Il dit, tu feras salat plus tard. Oui, il veut aller au Hajj. J'irai quand tu seras vieux. Et il rentre dans la maison des films haram. Il rentre dans la maison du haram. Il rentre à la maison des substances haram. Il rentre à la maison des mada, de l'argent haram. Il rentre à la maison de la boisson haram. Et ensuite, il meurt. Et l'enfant a pris ce mauvais exemple. Et l'enfant continue après sa mort. Lui, il entre pleinement dans le hadith. Tous les jeunes qui vendent de la drogue, ou tous ceux-mêmes qui fument et qui rentrent chez eux la cigarette, hein, et qui nourrissent leur famille du feu et du haram, hein, ces gens-là, ont-ils respecté le dépôt ou ils ont trahi la responsabilité? Wal'iyadou billah. Il disait auparavant, non, dès que je me marie, j'arrête. Ou dès que je construis la maison, j'arrête. Il s'est marié, il a construit la maison, mais il continue. Il est dans un engrenage, il est dans le haram. Il veut pas sortir de l'argent haram pour aller vers le halal. Il veut pas se repentir. Pourquoi? Parce que son cœur, il est rattaché à ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'il est distrait de la résurrection dans l'autre monde. Pourquoi? Parce qu'il oublie. Alors qu'Allah Azza wa Jal, chez lui, tout est enregistré. Donc ce hadith, c'est une grande menace à toute personne qui trahit la responsabilité de son foyer, qui éloigne ses enfants du Coran, de la Sunna, qui les rapproche de ce bas monde et de ses perversions. Et il y a ici une mise en garde à toute personne qui se marie, qui a des enfants et qui vit dans un endroit où il y a le mal. Il vit dans un endroit où il y a le mal, puis il dit « Subhanallah, mon enfant est revenu avec ça, mon fils est revenu avec ça, ma fille est revenue avec ça. » Mais c'est toi, tu as enchaîné tes enfants, tu les as jetés dans la mer et tu leur as dit « Ne vous noyez pas mes enfants. » Il attache ses enfants, il les jette dans la mer et il leur dit « Ne vous noyez pas. » Tu vis dans un endroit où il y a le haram, où au quotidien tes enfants témoignent du haram. Ils vont à l'école, ils entendent le haram, ils voient la perversion. Ils rentrent chez eux, à la télé, il y a la perversion. Ils se réveillent dans le haram, ils se couchent dans le haram. Quand ils sortent à l'école, il y a le haram. Et quand ils rentrent chez eux, il y a le haram. Mais il dit à son enfant, fais le bien et ne fais pas le mal. Subhanallah. Tu veux sauver ton enfant? Sors de l'endroit où il y a le mal. Sors de la ville où il y a le mal. Sors du pays où il y a le mal. Et amène tes enfants dans un endroit où ils seront préservés. Où ils vont entendre le bien, où on va les encourager au bien, où le fait d'adorer leur Seigneur, ça sera facile, ça sera aplani et planifié. Mais dans un endroit où simplement faire la prière à l'heure, c'est difficile, subhanallah. Comment est-ce que tu veux que l'enfant il grandisse avec l'amour de la salate? Simplement faire la salate à l'heure, pour lui c'est colossal. Alors que dans d'autres endroits, on l'appelle à la prière. On l'appelle à la prière. Dans d'autres endroits, on lui apprend le Coran. Dans d'autres endroits, s'il a un mauvais comportement, on appelle ses parents immédiatement. On les informe. Donc, Al-Bi'a, l'endroit dans lequel l'enfant grandit, les parents ont une grande responsabilité. Les parents ont une grande responsabilité. Et n'oublie pas que la guidée, c'est Allah qui la donne. Nuh, alayhi salam, a appelé son fils à l'islam, au tawhid. Il a appelé son épouse. Il a appelé son peuple. Mais Allah Azza wa Jal nous dit que très peu parmi eux ont cru. Et il nous mentionne que son fils a désobéi. Il nous mentionne que son épouse a désobéi. Le prophète, alayhi salatu wa salam, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes et des messagers, son père n'a pas cru. Il est décédé en dehors. Et de son vivant, son oncle n'a pas cru. Il est décédé en dehors de l'islam. Un autre l'a combattu, un des pires ennemis de l'islam. Ibrahim alayhi salam, Khalil al-Rahman, son père n'a pas cru. Il sera jeté en enfer, transformé en hyène, yawm al-qiyama. La guidée, elle est dans la main d'Allah. Nous, on fait les causes et on abandonne notre affaire à Allah Azza wa Jal en faisant dua. Mais si tu as tout fait, à ce moment-là, tu seras innocent dans le cas où, wal'iyadhu billah, certains, yani, s'égarent. Certains s'égarent. Mais il faut conseiller régulièrement. Il faut que tu sois à l'écoute de tes proches et que tu les rapproches de toi. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, donc ça c'est pour, na'am, ça c'est pour l'époux. Concernant l'épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'oula ». Et l'épouse, est responsable dans la maison de son époux et Mada, et elle sera questionnée sur sa responsabilité. Donc, tout comme l'homme a des devoirs et a une lourde responsabilité, la femme, l'épouse, a des grands devoirs et une très lourde responsabilité. Il lui est demandé de préserver le foyer du mal. Il lui est demandé de s'éduquer en premier lieu elle, car elle est ilm, قبل القول والعمل. Comme le Bukhari a dit dans son sahih, bab al-ilm qabla al-qawli wa al-amal. Le chapitre de la science avant la parole et les actes. والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم. Allah dit dans le Coran, sache que nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et demande pardon pour tes fautes. Ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah a donc commencé par la science. Allah a commencé par la science. Tu dois d'abord apprendre et après tu pourras agir. Quand tu auras appris et agi, à ce moment-là, tu pourras transmettre et prêcher. Tu pourras transmettre, prêcher, orienter. Mais d'abord, la science, c'est le plus important. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit « Talabul ilm, faridatun ala kulli muslim ». L'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. Donc la femme, il lui est demandé d'apprendre. Il lui est demandé d'apprendre. Comme ça, elle va savoir comment se comporter, exceller auprès de son Seigneur et obtenir son agrément. Elle apprend, après avoir appris, elle doit se réformer entre elle et Allah Azza wa Jal. Puis, elle doit s'acquitter de ses devoirs envers son époux. Elle doit chercher son agrément, elle doit chercher à le satisfaire. Tout ce qui est en son possible, elle doit le faire pour avoir son agrément, car elle est son paradis ou son enfer. Elle doit prendre soin de l'argent de son époux, ne pas le gaspiller, le préserver. Elle doit prendre soin du foyer de son époux, dans sa propreté et sa tenue, son organisation. Elle doit surtout prendre soin de ses enfants. Elle doit les éduquer, elle doit les orienter, elle doit les chérir et les aimer. Et beaucoup pensent que l'éducation de l'enfant n'est pas la responsabilité de la femme. L'éducation de l'enfant, en premier lieu, c'est la responsabilité de la femme. Le père a plus un rôle de contrôle, c'est-à-dire en rentrant de ses obligations, de son travail, de ce qu'il a à gérer à l'extérieur, la femme lui fait un compte-rendu. Et lui, il veille à la bonne organisation, à l'image du dirigeant, des généraux et des soldats. Ceux qui sont au front, ce sont les soldats. Mais celui qui organise, qui administre, qui ordonne et interdit, naam, c'est ceux qui sont au-dessus. C'est ceux qui sont au-dessus. C'est la même chose pour la femme. C'est elle qui est au front. C'est elle qui au quotidien est, qui yani passe le plus de temps avec les enfants. C'est elle qui doit les éduquer. Le plus haut devoir d'exemplarité, il est pour la femme. Parce que les enfants, d'elle, ils apprennent à parler. D'elle, ils apprennent le comportement. D'elle, ils voient le comportement et ainsi de suite. Donc, elle a une grande responsabilité. Comment elle parle, comment elle se tient, comment elle... Et ainsi de suite. Elle doit veiller à ce que rien de haram entre. Si elle voit un enfant entrer avec une chose qui n'est pas à lui, elle doit poser des questions, elle doit se renseigner, elle doit interroger son époux et ainsi de suite. Et cette femme-là, lorsqu'elle fait tout ça, quelle doit être son intention? Elle doit faire cela « imtithalan li amrillah ». Attention. Beaucoup de femmes excellent dans le comportement, la bienfaisance, la satisfaction de l'époux, l'éducation des enfants. Mais l'intention de cette femme, c'est quoi? Je veux être la meilleure, meilleure que mes voisines. Je veux que ma belle-mère, yani, elle me regarde d'un bon œil. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Je veux que mon époux m'aime encore plus. Tout cela, naam, à la base, il n'y a pas de problème de concurrencer dans le bien et de vouloir avoir la meilleure place dans le cœur de l'époux. C'est même demandé. Mais est-ce que c'est l'intention première? Non. L'intention première, je fais tout cela parce que ma religion me l'ordonne. Je fais tout cela parce que moi, je suis Amatullah, je suis la servante d'Allah. Donc, je fais comme Allah veut que je fasse. C'est pour ça que je me comporte comme ça, envers tout un chacun. C'est pour ça que je me comporte comme ça. Pourquoi? Parce qu'Allah, mon maître, mon seigneur, mon créateur, mon pourvoyeur, m'a dit de me comporter ainsi. Et c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me connaît, c'est où il est bien pour moi. C'est pour ça que je me comporte ainsi. Et après seulement, à la recherche de l'agrément de son époux, parce que c'est Allah qui lui a dit de faire ça, avant même l'amour qu'elle lui porte, la bienfaisance, la reconnaissance, et ainsi de suite. Donc elle doit ressentir qu'Allah la surveille, qu'Allah la voit. Alors, elle excelle dans le comportement. En plus de ça, elle se rappelle que viendra un jour, elle va mourir. Un autre où elle va être ressuscitée pour être jugée et interrogée. Donc, elle prépare les réponses. Elle prépare les réponses avant d'être interrogée. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Bukhari nous mentionne le hadith An Abi Sulayman, Malik ibn al-Hur, ibn al-Huwayrith, radiallahu anhu, قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عن من تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أبو سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أجي. Nous sommes allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous étions des jeunes du même âge. Nous avons résidé 20 nuits chez lui. Puis il a su que nous désirions retrouver nos familles, alors nous l'avons informé sur les gens que nous avions laissés chez nous. Il était doux, plein de sollicitude et miséricordieux envers nous. Il a dit, retournez auprès de vos familles, enseignez-leur, ordonnez-leur et priez comme vous m'avez vu prier. Lorsque vient le temps de la prière, que l'un d'entre vous accomplisse l'appel à la prière et que le plus âgé d'entre vous dirige la prière. Malik ibn al-Huwayrith était un jeune. Il a voyagé avec un groupe de personnes vers le prophète alayhi salatu wassalam à la recherche de la science. Et il nous dit, wa nahnu shababah mutaqaribun. Nous étions des jeunes proches les uns des autres. Proches les uns des autres, c'est-à-dire proches dans l'âge, premièrement, et proche dans le niveau de science et de compréhension de la religion. Donc dans l'âge, mais également dans les acquis, dans la science, dans le niveau. Parce que dans le recueil de l'imam Abi Daoud, proche dans la science. Naam. Et dans le recueil de l'imam Muslim, proche dans la science. Et dans le recueil de l'imam Abi Daoud, proche dans l'âge. Donc ils ont fait ce noble voyage, un des meilleurs voyages, le voyage à la recherche de la science. Et auprès de qui? Allahu Akbar. Auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant au monde, le meilleur des éducateurs. Et si certes voyager et prendre la science des gens de science est le délice de ce bas monde, on ose imaginer la plénitude de ce plaisir pour ceux qui ont voyagé et à terme, ils voyaient le visage du prophète alayhi salat wa salam. Ils se délectaient de par l'écoute des paroles des hadiths du prophète alayhi salat wa salam. Ces jeunes-là ont fait ce voyage clair, avec une destination claire, avec un but clair. La recherche de la science. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, celui qui emprunte un chemin vers la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et certes, les habitants des cieux, les anges, abaissent leurs ailes en signe d'humilité au-dessus de l'étudiant en science, en signe de satisfaction devant ce qu'il entreprend. Jusqu'à la fin du hadith qui nous montre les mérites et les bienfaits de la recherche et de la science. Donc ces jeunes-là préservaient leur temps. Ces jeunes-là avaient des buts louables. Ils voulaient apprendre leur religion, appliquer et rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Non pas comme les voyages de certains jeunes qui se réunissent et se disent on va dans tel pays. Certains vont en Thaïlande, d'autres vont dans tel autre pays, d'autres dans tel autre pays. À la recherche de quoi? Ils savent même pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans ces endroits-là. Puis en chemin, ils tombent dans des péchés qu'ils n'auraient jamais imaginé faire. Parfois, le but est sombre, ou plutôt, il est trouble. C'est-à-dire lui-même se rend dans ces pays-là, mais ne sait pas clairement ce qu'il va faire. Il va s'amuser, il va profiter, il va se détendre. Mais une fois sur place, l'un graine l'autre, et le deuxième engraine le troisième, et ainsi de suite. Et il se retrouve à commettre des choses inimaginables. Qu'Allah nous pardonne. Donc là, non, on voit que c'est un voyage louable avec un but clair, avec une destination claire, avec des intentions claires. Prendre la science auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appliquer et la transmettre à ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Il nous dit, فَاقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً. Ils sont restés un temps déterminé. Ils sont restés 20 nuits. Et dans ces 20 nuits, Allah a mis la baraka. Certains partent et voyagent des années, mais ils n'obtiennent pas grand-chose. Et ici, tu vois qu'en 20 nuits, tu peux obtenir la bénédiction. Tu peux obtenir beaucoup de khayr. Et le prophète, alayhi salat wa salam, était miséricordieux, plein de mansuétude. Ils étaient jeunes. Il a su que le jeune avait besoin de sa mère, avait besoin de sa famille, avait besoin de ses proches. Donc, il a pensé qu'ils avaient le désir de retourner auprès des leurs. Il les a donc interrogés. Qui avez-vous laissé derrière vous? Qui avez-vous laissé derrière vous? Et là, tu vois l'excellent comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces jeunes-là sont venus. Ils ont eu l'honneur de devenir des sahabas. Parce que ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi un sahabi? Un sahabi, كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Toute personne qui a rencontré le prophète عليه الصلاة والسلام de son vivant a cru en lui et est mort sur l'islam. Donc eux, à travers ce voyage, ils sont devenus sahaba. Allahu Akbar. Ils ont obtenu ce titre honorifique que personne peut atteindre après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont aussi appris la science en le voyant. C'est pas pareil d'apprendre la salat dans le livre, même si c'est avec les ulama, que d'apprendre la science en regardant le prophète. Tu vois comment il prie, comment il met sa main, comment il se prosterne, comment il fait le wudu, comment il se comporte, comment il rentre et sort de chez lui. Subhanallah. Ça, c'est le niveau. C'est le meilleur niveau. Ben, eux, en 20 jours, ils ont pu obtenir de ces bienfaits-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a perçu qu'ils avaient besoin de leurs proches et qu'ils ont laissé des familles derrière eux. Naam. Et le jeune a plus besoin de sa mère et de sa famille que la personne qui a atteint un certain âge. Naam. Que l'adulte qui a atteint un certain âge. Alors, il leur a demandé, qui avez-vous laissé derrière vous? Ça, c'est l'excellence dans le comportement. Et il y a beaucoup de leçons à tirer et beaucoup de bénéfices. Si tu dis à ton élève, est-ce que tes parents sont encore vivants? Tu dis, oui, j'ai mes deux parents. Tu dis, alhamdulillah. Comment va ta mère? Comment va ton père? Ta mère a quel âge? Elle a 70 ans, elle est âgée. Est-ce qu'elle arrive encore à se déplacer seule ou bien? Naam. Est-ce qu'elle peut s'occuper encore d'elle-même? Ou bien elle a besoin d'une personne à ses côtés? Et tu commences à lui poser des questions. T'as combien de frères? Vous êtes combien? Comme ça, tu vas savoir sa situation et tu vas savoir comment l'orienter. Comment le conseiller? Et tu vas l'appeler à être le meilleur. Mais pour cela, il faut d'abord connaître sa situation. Deuxièmement, il va voir que tu prends soin de lui et qu'il est important pour toi. Et que tes proches sont importants pour lui parce qu'il te demande à leur sujet. Naam. Lorsque tu rencontres une personne et qu'il t'a vu une fois ou qu'il a su que tu avais un enfant, et à chaque fois, il te dit, comment va ton fils? Et il cite son prénom. Ça va te toucher. Naam. Ou il te dit, Kaif al-Walid? Comment va le papa? Est-ce que ça va, kada, kada? Parce qu'il l'a vu une fois avec toi, peut-être il y a un an. Il fait dua pour eux. Il te demande de leurs nouvelles. Il suit ton état. Naam. Comment vont-ils? Puis quand tu as su l'âge, tu vas poser des questions de circonstances. S'ils sont âgés, il y a des questions à poser. S'ils sont jeunes, il y a d'autres questions à poser. Si c'est une famille nombreuse, il y a certaines questions. Et ainsi de suite. Et certains ignorants ne savent pas que ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et du bon comportement. Ils vont penser que c'est un verbiage inutile. Ils vont penser que c'est des paroles qui servent à rien. Hein, pour passer le temps. Pire encore, certains vont penser
que tu rentres dans la vie privée et que tu es curieux. Et... Subhanallah, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, de poser des questions. C'est ton ami, tu sais même pas si ses deux parents sont vivants. C'est ton ami, tu sais même pas s'il a des frères et sœurs. C'est son ami. C'est ton ami, tu sais même pas il a combien d'enfants. Mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous restez toujours ensemble? C'est que du business, que du commerce? C'est que des restaurants, c'est que quoi? Que de la nourriture, que de la boisson? Non. Vous devez vous conseiller mutuellement. Mais pour vous conseiller mutuellement, comment tu vas lui dire, crains Allah envers tes parents, crains Allah envers ton frère, crains Allah envers ta sœur, alors que tu sais même pas sa situation? Peut-être que sa mère réagit, elle est malade. Et que lui, il est tout le temps avec toi. Maintenant que t'as appris que sa mère, elle est âgée, elle est malade, tu dois lui dire quoi? Harry, je vois que t'es souvent dehors. Mais ta mère, elle a pas besoin de toi. Naam. Est-ce que t'as engagé une dame pour être à son service, pour l'aider, kada? Naam. Reste souvent avec elle, prends soin d'elle, occupe-toi d'elle. Peut-être qu'elle est âgée, peut-être qu'elle va décéder, tu pourras plus faire ce bien-là. Hein? Le vrai ami, il va lui conseiller ça, il va pas lui dire reste avec moi tout le temps parce que tu m'apportes en compagnie, parce que je t'aime beaucoup, parce que ensemble, on fait beaucoup de bénéfices et. Non. Tu dois savoir sa situation pour pouvoir l'orienter, pour pouvoir le conseiller. Et ça ne fait pas partie de rentrer dans les affaires des gens qui ne te regardent pas. Au contraire, ça fait partie du conseil sincère, c'est partie du bon comportement. Et c'est pour être apaisé sur sa situation familiale. Peut-être qu'il va t'informer de dettes dans la famille, hein, qui apportent des gros soucis. Et toi, peut-être que tu as des moyens de régler ces dettes. Mais tout cela vient avec quoi? Avec la discussion. Tout cela vient avec la discussion. Et subhanallah, j'ai un ami qui me demandait toujours des nouvelles de mon père. Toujours des nouvelles de ma tante. À un point tel où à chaque fois que mon père m'appelle, il me dit « Comment va un tel ?» Comment va un tel? Et un tel, comment il va? Non, mais ma tante, elle me dit, et un tel, comment il va? Hein? Ton ami, celui qui mange pas les tomates. Allahu Akbar. Et Annie, jusqu'à savoir le plat, comment il l'aime. Et son épouse, elle va bien. Et elle avait tel souci de santé. Et ses enfants, là, ils vont bien. Allahu Akbar. Nos parents, wallah, ils connaissent mieux ça que nous. Alors qu'ils n'ont pas beaucoup étudié. Le fait de demander des nouvelles, ils demandent des nouvelles de tes amis, des nouvelles des enfants de tes amis. Peut-être que toi, t'es distrait de ça. Tout ça, ikhwan el kiram, ça fait partie du adab. On l'a appris ici dans le hadith. Naam, il faut maintenant l'appliquer. Et il faut le propager. Et il faut le faire connaître aux gens. Ça, c'est la sunna de notre prophète et de notre bien-aimé. C'est à cela qu'on doit s'attacher. C'est cela qu'on doit comprendre et qu'on doit appliquer. Wa billahi tawfiq. De nos jours, les gens sont individualistes. Hein? Chacun s'occupe de son affaire, il veut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Ni lui, il rentre pour s'enquérir de l'état de ses voisins, de ses proches, et ni il veut que les gens rentrent auprès de lui. Ceci n'est pas l'exemple que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait su leur état, il leur a dit, irji'u ila ahlikum. Ça, c'est la conséquence de prendre des nouvelles de ses élèves, des enfants, des gens. Il leur a dit, retournez dans votre famille. Mais est-ce qu'il les a laissés partir ainsi? Non. Il leur a donné des recommandations. Les jeunes ont besoin de beaucoup de recommandations. Ils ont besoin de beaucoup de pitié de notre part, de beaucoup de miséricorde, de beaucoup de doua, de beaucoup d'orientation. Hein? Ils n'ont pas besoin au quotidien que de cris, que d'ordres et d'interdits. Certains pensent que l'éducation, c'est ça. C'est crier sur l'enfant quand il y a une faute, quand il nous dérange, donner des ordres et donner des interdits, c'est tout. C'est ça l'éducation. Non. Certains parents, c'est encore plus, ils parlent pas. Ils parlent pas. Quand il y a un problème, ils frappent. C'est tout. Ça, c'est pas ça la tarbiya. C'est pas ça qu'Allah veut de nous pour nos enfants. Non, tu parles avec ton enfant, tu plaisantes avec ton enfant. Et il y a il y a 3 jours, j'étais auprès de ma tante Khalati, Hafidah Allah. Elle me donnait des conseils. Elle me disait, ce que j'aime pour vous, mes enfants, c'est que vos enfants soient comme vos amis, proches. Quand il y a quelque chose, il vient de voir toi, il parle à toi. Il va être tellement bien chez toi qu'il voudra même pas voir ce qui se passe dehors. Il est proche de toi, il veut sortir avec toi. Hein? Quand il y a une sortie plaisante, il préfère être avec toi qu'avec ses amis. Il préfère venir avec toi, il sait que c'est avec toi qu'il y aura le bien, la science, la plaisanterie, les amis, tout le bien, le din et la dunya. Pourquoi tu le pousses à aller chercher dehors? Parce que quand il te demande une chose, j'ai pas le temps. Je suis occupé. Plus tard. Et ce plus, et tu lui donnes une promesse, et tu tiens pas la promesse, et tu repousses, et tu décales, et tu ne tiens pas à nouveau. Et ensuite, lui, il comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut chercher maintenant à, comment est-ce qu'on dit ça? Le bonheur, l'épanouissement, il veut chercher l'épanouissement dehors. Parce que chez lui, il a pas trouvé. Alors, il va commencer à fréquenter tout le monde et n'importe qui. Hein? Et des fois, il tombera sur des gens bien. Et des fois, il tombera sur des gens mauvais. Puis tu vas dire, t'as des mauvaises fréquentations, il va tomber dans le haram. Mais tu es tellement ignorant que tu sais même pas que c'est toi la cause de ça. Lui, il voulait rester avec toi. Il voulait voir le bien auprès de toi. Il voulait s'éduquer auprès de toi. Toi, tu l'as jeté dans les griffes du mal. Hein? Alors? Et Anissa, c'est un noble conseil, subhanallah. Elle m'a conseillé. Wallah, j'ai écrit ses conseils. Elle dit, tu rapproches l'enfant de toi. Tu plaisantes. Elle m'a dit, non. Ton talbi'il, t'étudies tout le temps, tu lis, t'écris, c'est bien. Elle m'a dit, mais tu dégages toujours du temps pour les enfants. Toujours. Toujours, tu trouves du temps, tu t'assieds avec eux, tu plaisantes avec eux, tu joues avec eux. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Naam. Et, wallahi, c'est un conseil. Yani, c'est une nasiha tayyiba. C'est un très bon conseil. Sincère, jazahallahu khayra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc dit, allimouhum, enseignez-leur. Ces enfants sont restés combien de temps? 20 jours. Mais ils ont appris la salat, ils ont appris la purification, ils ont appris des choses. Le prophète sallam leur a dit, retournez auprès d'eux, enseignez-leur. Vous avez appris la science, vous avez appliqué. Maintenant, le troisième fondement arrive. C'est quoi? Le troisième point arrive. C'est quoi? Ad-da'wa. L'enseignement, la prédication. Hein? Donc, il leur a dit de transmettre la science. Le tawhid, la purification de la croyance, la purification, la prière, le comportement et tout ce qu'ils ont appris vu du prophète alayhi salatu wasalam. Il leur a dit ordonnez-leur. C'est-à-dire ordonnez-leur les préceptes de l'islam. Tout ce que vous avez appris ici, ordonnez-leur. Et là on tire une grande leçon, c'est que la da'watu ila Allah, que le prêche et l'appel à Allah doit se faire avec science. Le prophète alayhi salatu wasalam, ça n'est qu'après qu'ils aient appris auprès de lui pendant 20 nuits qu'il leur a dit enseignez. Contrairement à certains égarés, comme la secte Jama'at al-Tabligh, qu'est-ce qu'ils font? Premier jour dans l'islam, même des gens convertis à l'islam. Il lui dit, lève-toi et prêche. Il dit, mais je connais rien, j'ai pas appris. C'est pas grave, en parlant, tu vas apprendre. Allez, sors, va. Voyage, va appeler les gens à l'islam. Subhanallah, lui, il sait pas c'est quoi encore l'islam. Comment tu peux lui dire de partir? Deuxièmement, le prophète a commencé par ses proches parents. Pourquoi tu lui dis pas, apprends, applique et apprends à ta famille? Toi, tu lui dis, va où? En Inde, va en Pakistan. Allahu Akbar. Ça, c'est un égarement. Appeler les gens avec ignorance à l'islam, c'est l'égarement absolu. Un jour, on raconte que deux hommes se disputaient, un chrétien et un musulman. Et chacun amenait les arguments pour dire sa religion, c'est la meilleure. Et à un moment, le chrétien a dit, nous, on a Jésus, et c'est le fils d'Allah. C'est le fils de Dieu. Et le musulman, il s'est énervé par jalousie, il a dit, et nous on a Mohammed, c'est le fils d'Allah aussi. Il a dit une parole de mécréance. Il veut secourir l'islam avec l'ignorance. Il en est arrivé à attribuer un enfant à Allah. C'est de la mécréance, c'est une parole très grave. Regardez où l'ignorance ça peut amener. Hein? Il faut apprendre, il faut appliquer, et ensuite, il faut transmettre. Ensuite, il faut transmettre. Ces gens-là sont restés 20 nuits. En 20 nuits, combien de fois ils ont vu le professeur Sallam, ils ont appris? Sans prière. Sans prière. En 20 nuits. Naam, pour 5 prières par jour, au minimum. Sans prière. Ils ont dû apprendre de tout cela du prophète, alayhi salatu wasalam. Ces gens-là, pour rentrer, ils vont voyager. Alors, le prophète, alayhi salam, leur donne des recommandations pour la prière. Il leur a dit, priez comme vous m'avez prié. Ça, c'est le comment de la prière. La sunna, faut respecter des horaires, faut respecter des conditions, faut respecter aussi le comment. La manière de prier. Et ça, c'est pas que pour eux. Ça, c'est pour toute la communauté. On doit prier comme le prophète Arsène m'a prié. Pour ce faire, il faut étudier dans les livres de Sunna. Et un des meilleurs livres qui a été écrit à ce sujet, c'est Sifat Salat Nabi Salam de Sheikh Al-Albani. Il y a le résumé et il y a le livre détaillé, je vous le recommande. Il faut demander aux gens de science comment on prie. Comment on se tient debout? Comment on fait l'inclinaison? Comment je dois mettre mon dos? Où est-ce que je mets mes mains? Est-ce que je les laisse ballant le long du corps? Ou alors je mets ma main droite sur ma main gauche? Comment je me prosterne? Comment je descends? Comment je mets mon doigt quand je fais tachahoud et ainsi de suite? Il faut poser les questions. Afin que toi, que ta prière soit identique à la prière du prophète sallam, comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais devant toi. Et ça, c'est pour la prière, mais en réalité, il faut le faire dans toutes les branches de la religion. Allah te dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Tout ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Et le prophète sallam dit, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِمْ أَمْرُنَا فَوَرَدْ. Dans le hadith d'Aïcha, dans lequel il est musulman, toute personne qui fait un acte qui n'est pas en accord avec mon ordre sera rejetée. Interdiction d'innover dans la religion d'Allah. El bid'a haram. El bid'a haram. Le prophète sallam a interdit les innovations religieuses. Puis il leur a dit, lorsque l'heure de la prière arrive, que l'un de vous fasse l'adhan. On tire de cela que même en voyage, on fait l'adhan. Même en voyage, avant de faire salat, on fait l'adhan. Puis il leur a dit, وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Et fera l'imam le plus âgé d'entre vous. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit le plus âgé d'entre vous, alors que dans un autre hadith, on a appris que le plus endroit à faire l'imam, c'est ma'adha akra'ukum likitabillah. Le prophète sallam a dit, ya'ummukum akra'ukum likitabillah. Fera l'imam celui qui lit le mieux le Coran ou qui mémorise le plus le Coran. S'ils sont égaux dans le Coran, alors celui qui mémorise le plus la sunna. S'ils sont égaux dans cela, celui qui a fait la hijra en premier. S'ils sont égaux dans cela, celui qui est le plus âgé. Et ainsi de suite. D'accord? Pourquoi dans ce hadith il leur dit, fera l'imam le plus âgé d'entre eux? Parce qu'au début du hadith, Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu anhu, nous a dit, wa nahnu mutaqaribun. Parce qu'ils sont arrivés en même temps, ils ont à peu près le même âge, à peu près la même science. C'est pour ça qu'il dit, alors le plus âgé. Hein? Mafhoum? C'est pour ça qu'il dit le plus âgé. Parce qu'ils ont le même niveau. Parce qu'ils ont à peu près le même niveau. Et on voit ici l'importance de l'imam. Que c'est une grande responsabilité. Pour l'adhan, il a dit l'un d'entre vous fait l'adhan. Pour l'imam, il a pas dit l'un d'entre vous. Le plus âgé. Le plus âgé. Voici pour ce hadith. Et pourquoi est-ce que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a mis ce hadith sous le chapitre « L'homme est responsable de sa famille ». Parce que le prophète sallam a éduqué ses jeunes. Et il leur a dit « Quand vous retournez chez vous, enseignez-leur et ordonnez-leur ». Donc il leur a pris la responsabilité. L'homme, il doit enseigner à sa famille, il doit ordonner à sa famille le bien, et il doit les orienter vers le bien. Voici pour ce hadith. L'imam al-Bukhari ensuite nous dit, Bab al-mar'atu ra'iyya. La femme est bergère ou bien est responsable. La femme est bergère ou bien est responsable. On a lu le hadith Abdullah ibn Omar. Vous êtes tous bergers, vous êtes tous responsables de votre troupeau. Il a dit au sujet de la femme est bergère dans la demeure de son époux. Naam, donc la femme a une grande responsabilité. Et parmi les erreurs, lorsqu'on demande à la femme, est-ce que vous travaillez? Elle dit non. Qu'elle est femme au foyer. Wallahi, ça c'est de l'injustice envers les femmes. De prétendre que la femme qui est chez elle, elle travaille pas. Wallahi, c'est de l'injustice envers la femme. Il n'y a pas un travail plus noble pour la femme. Il n'y a pas un travail plus méritoire et une plus grande responsabilité et un meilleur dépôt respecté que la femme qui est chez elle et travaille chez elle. Ce pourquoi Allah Azza wa Jal l'a mise. Elle s'occupe de sa personne. Elle s'occupe de son foyer. Elle s'occupe de son mari. Elle s'occupe de ses enfants. Et on va dire qu'elle travaille pas. Toi, l'homme qui sort, tu travailles par exemple de 9h à 17h. Hein? Ensuite, tu peux te déconnecter de ton travail et te reposer, n'est-ce pas? Et vaquer à tes occupations et tes loisirs et tes plaisirs. D'accord. Est-ce que la femme peut travailler de 9h à 17h? Quand tu dors, hein, quand tu dors, elle se lève, elle travaille. Quand l'enfant pleure, elle se lève, elle travaille. Quand tu te réveilles, elle est déjà réveillée. Et quand tu dors, elle s'est levée peut-être 5 fois dans la nuit. Elle ne compte pas ses heures. Et on ne pourrait la rétribuer. On pourrait lui donner un salaire en comptant ses heures. Ça épuiserait nos richesses. Comment après ça on peut dire qu'elle travaille pas? Subhanallah, c'est du zulm. Non. Il faut enlever cette expression-là. Il faut valoriser la femme qui est chez elle, qui a le travail le plus en adéquation avec sa personne. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla va l'interroger sur sa responsabilité. Donc elle doit se préparer, elle doit apprendre et s'acquitter de ses devoirs tout en espérant la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, Abdullah ibn Omar nous dit, et je pense qu'il a dit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et l'homme est responsable de l'argent de son père. C'est-à-dire que les enfants ont une responsabilité dans le dépôt de l'argent de leurs parents. Ils ne doivent pas les pousser à leur acheter ce qui déplaît à Allah. Et ils ne doivent pas pleurer devant eux pour les pousser à faire ce qu'Allah n'aime pas avec leur argent. Certains parents ne veulent pas dépenser dans le haram. Mais par pitié envers l'enfant, insistance de l'enfant, par rapport aux larmes de l'enfant, hein, comme beaucoup sont des enfants gâtés désormais, ben, la mère surtout, elle cède. Et si le père cède pas, la mère fait céder l'homme. Naam. Donc, l'enfant, il doit craindre Allah dans l'argent de ses parents. Il ne doit pas le prendre sur leur permission. Il ne doit pas les voler. Il ne doit pas le gaspiller. Il ne doit pas être lourd pour eux. Il ne doit pas insister lorsque les parents ne veulent pas. Il ne doit pas leur causer de chagrin parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur offrir ce qu'ils aimeraient lui. Il doit leur dire, c'est pas grave si vous avez pas, alhamdulillah, moi c'était pas très, très important en vrai pour moi. Il doit leur dire des paroles qui vont, yubarrid qulubahum. Naam, il doit rafraîchir leur cœur, ne pas leur mettre des soucis, ni de la tristesse. Et il ne doit pas les pousser à dépenser, il ne doit pas utiliser leur argent pour dépenser dans le haram. Sans compter qu'il doit les aimer, qu'il doit les respecter, qu'il doit invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف اولادنا اللهم اشف اولادنا اللهم اهدي اولادنا اللهم ارحم اولادنا اللهم وفقهم لما تحبه وترضى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين